Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité santé, Claire Hédon.
Bonjour à tous, Priorité Santé vous emmène aujourd'hui au Niger, dans les mines de Komabangou à l'ouest du pays, près du Mali et du Burkina Faso. Ces mines d'or attirent de plus en plus de personnes en quête de la bonne affaire. Un véritable village s'est construit dans cet univers aride et désertique. Les conditions de travail sont pénibles et dangereuses, provoquant de nombreuses maladies chez les mineurs, avec en plus une épidémie de sida qui se propage rapidement. Un reportage d'Igor Strauss, réalisé en partenariat avec l'INPES, l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé. Igor Strauss nous emmène visiter les mines avec Ilyasu Doulaye, responsable de l'ONG World Vision à Komabangou. World Vision est une ONG américaine qui lutte contre le travail des enfants. Sur ce site, il y a plus d'une centaine de puits.
Donc présentement, le puits que nous avons devant nous doit avoir environ 35 mètres comme ça.
Donc il fait 1 mètre de diamètre et 35 mètres de profondeur.
Ça fait 1 mètre de diamètre et 35 mètres de profondeur.
Et dans le puits, là, il y a quelqu'un?
Il y a quelqu'un, oui. Depuis ce matin, il y a quelqu'un. Donc c'est vers 7h, 7h30 que les gens font leur descente. Maintenant, pour remonter, il faut dans les environs de 14h.
Et donc pendant tout ce temps-là, ils sont dans un tout petit trou en train de creuser?
Ils sont dans un tout petit trou pour au moins se creuser, pour faire dégager et enlever tout ce qu'il y a comme mauvaise partie, telles que les mauvaises roches, avant d'atteindre le filon en ce temps. Et ce que vous voyez aussi comme donc le plastique noir là, quoi. Donc c'est le système d'aération, c'est ce qui conduit l'air jusqu'à la personne qui se trouve dans le trou pour en fait le soulager de la chaleur ou bien de ne pas se suffoquer facilement, quoi.
D'accord, en fait c'est une énorme bâche en plastique, ouais. Noir comme vous l'avez dit, ouais. Qui descend aux 35 mètres, ça forme un petit cône et c'est ça qui lui permet de respirer.
Ouais. Donc c'est dans ça qu'il essaie de faire rentrer de l'air à travers leur petit geste là, quoi. Et lui, il reçoit de l'air fraîche là-dedans.
Ah voilà, donc là il lui donne de l'air là. En tapotant.
Maintenant nous avons en face de nous le propriétaire du trou.
Vous vous appelez comment?
C'est Omar Gemba. Moi, c'est Nigérien, 100%.
Ça fait combien de temps que vous travaillez ici?
Ici, comme avant, ça fait 7 ans maintenant.
Est-ce que vous avez des problèmes de santé en raison de votre travail?
Ah, il n'y a pas de problème.
Vous n'avez jamais été blessé?
Non, j'ai blessé. Vous regardez ça, j'ai blessé. Ça fait 9 mois, j'ai blessé comme ça.
En fait, vous avez une énorme boule en haut du petit doigt. Ça a dû être cassé, quoi.
Bon, je vous laisse comme ça, je ne connais pas si casse ou bien. Comme ça, maintenant, il faut regarder.
Pourquoi vous n'allez pas à l'infirmerie?
J'ai parti juste à Yamine, à l'hôpital, mais il a regardé, il a donné des recommandations, des recommandations, là, c'est fini, maintenant, il a été comme ça.
Ah, c'est pas normal, ça a gonflé.
Il faut regarder ça. Juste au vêtement. J'ai toujours mon papier, là, maintenant, il finit. Maintenant, le blessé, là, c'est fini.
Il y a souvent des gens qui meurent dans les galeries?
Oui, il y en a. Il y a quelqu'un. Ah, tout le travail, c'est comme ça. Tout le travail est comme ça. Tu vas blesser, tu vas mourir encore, tout ça, c'est comme ça.
Oui! Jusqu'à.
Hein? Bon, il va partir de côté, quoi. Comme il est en train de travailler, il va tirer.
D'accord.
Voilà.
Donc là, vous allez le remonter? Vous allez le remonter, la personne?
Non, il va tirer les personnes maintenant. Il va venir pour manger, après, quelqu'un il va rentrer encore.
D'accord.
Shine yasa nazo wurin yin wanga aiki in ina da aikin yi kaman ga wani wurin wata masana'anta da nake aiki ban tuha wurin wanga aiki saboda shi aikin karhi ne yana kashe jiki kuma ga wani cuta da yawa haka
indike si la mmc affaire ailleurs ne va pas venir ici faire ce travail là parce que le travail minier là c'est le travail forcé. Donc c'est sa force qu'il met, sa force humaine qu'il met pour faire ce travail. Donc c'est qu'il n'a aucun métier à faire ailleurs, n'a aucun commerce à faire. Donc c'est obligé de rentrer ici pour faire le travail minière là.
Donc c'est par obligation, c'était pas un choix quoi.
Ah ouais, il dit que c'est par obligation, c'est pas son choix. Ah ouais.
Est-ce que vous avez déjà eu un accident? Est-ce que vous avez déjà eu un problème de santé en raison du travail dans la mine?
Notre Osamu, elle dit que oui, c'est vrai, elle a l'habitude d'avoir des accidents parce qu'il y a un bon moment qu'il est dans une galerie, dans le puits comme ça, les galeries qu'ils font, et la galerie est tombée sur lui. Encore, il a l'habitude de travailler à peine fatigué, qu'il ne peut même pas se faire réveiller. Donc, il faut avoir de l'eau chaude ou prendre des comprimés. Mais maintenant, c'est la poussière là qui les empêche de respirer bien. Donc, des fois, ça les craint d'autres maladies. C'est pour cela, ce sont les vrais problèmes qu'ils rencontrent ici sur le travail. Nous sommes dans les poussières là. C'est trop dur. C'est trop dur. Oui. Même tu n'aimes pas, tu vas rentrer ça pour chercher ce que tu manges. Il y a les types à la maison, il n'y a pas de manger, donc tu sais qu'il y a des problèmes. On va chercher ça dans les poussières là.
Oui. Vous pouvez gagner à peu près combien de francs CFA par mois en cherchant de l'or?
Pour chercher de l'or. Moi, j'étais maintenant 13 mois ici, je n'ai pas eu 30 000.
30 000 francs CFA?
Voilà, je n'ai pas eu ça. J'étais 13 mois ici. Bon. Toujours, je travaille. Si tu as vu, je ne travaille pas, pas de santé. Mais si j'ai de santé, toujours, je travaille. Et puis que je suis là. Il y a les enfants à la maison, il n'y a pas de manger.
Et comment vous faites pour vivre alors?
Pour manger. Mais débrouiller pour les gens. Il y a quelqu'un qui va te donner 200. 150, tu veux manger. Ouais. C'est ça. Ouais.
Igor Strauss, bonjour.
Bonjour.
À quoi ressemble ce site de mine d'or?
Alors, on est au milieu de nulle part, hein, dans un univers très particulier, à 3-4 heures de route de Niamey. Imaginez-vous une immense plaine désertique, dépourvue de relief, où le moindre coup de vent soulève une quantité de poussière. Ça y est, vous y êtes. Alors, il y a quelques villages aux alentours, il y a un grand bâtiment en acier qui abritait, il y a une dizaine d'années, la société canadienne Etruscan, qui exploitait l'or sur le site. Alors, Etruscan n'a pas eu le permis pour faire une exploitation industrielle du site et s'est donc retiré. Les habitants des villages voisins ont donc commencé à exploiter le site de façon artisanale. Puis ils ont été rejoints par une multitude de gens de l'ensemble de la sous-région. Alors si je vous explique tout cela, c'est pour que vous compreniez à quel point les méthodes sont artisanales et donc fatalement dangereuses. Tous les orpailleurs que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils pensaient venir quelques semaines, voire quelques mois pour amasser un peu d'argent. Malheureusement, aucun n'est tombé sur le bon filon. Ils sont tous bloqués à comme un bangou, sans ressources. Alors aujourd'hui, plus de 3000 personnes vivent sur le site. Il y a donc un grand village avec des baraques plus ou moins bancales, des boutiques et même des vidéoclubs. À 300 mètres du village, on aperçoit des petites collines. En fait, ce sont des collines artificielles constituées par la terre que les orpailleurs dégagent des galeries.
Les conditions de travail sont-elles particulièrement pénibles?
Vous l'imaginez, Claire, hein, les conditions sont extrêmement pénibles. Officiellement, les mines doivent être fermées pendant la saison des pluies, car il y a eu trop d'accidents, trop de galeries qui se sont effondrées sur les orpailleurs, les enterrant vivants. Quand je m'y suis rendu en novembre, les mines étaient censées être fermées, mais évidemment, tout le monde y travaillait comme si le danger était inexistant. Alors il faut savoir qu'à Komabongou, hein, on travaille tous les jours, on ne s'arrête que quand on est malade ou trop fatigué pour continuer. Ce sont les hommes et les adolescents qui s'occupent du creusage, le travail est harassant, les accidents fréquents, et la poussière qui vous envahit les poumons ne fait qu'aggraver les choses. Les femmes sont évidemment mises à contribution, alors elles tiennent les boutiques, font les tâches ménagères et se prostituent souvent pour quelques francs CFA. Quant aux enfants, pas question d'aller à l'école, de toute façon il n'y en a pas. Dès 4-5 ans, ils sont en charge d'une activité essentielle sur le site, c'est le transport d'eau. Cette eau qui permet de nettoyer la terre et d'en dégager les quelques grammes d'or éventuels. Mais ce qui est incroyable, c'est que personne ne se plaint et tout le monde a le sourire. Alors après, quand on reste avec eux, on se rend compte que ce sourire cache bien souvent une grande détresse et une grande lassitude. J'ai assisté à la sortie des puits lors de la relève de midi et j'ai vu des jeunes gens couverts de terre, le regard hagard, exténué par le travail. On sent vraiment une grande fatigue aussi bien physique que psychologique.
À Komabongou, il n'existe qu'un seul centre de santé qui a été créé en 2005 par l'ONG World Vision. Pourtant, comme on l'a vu, ces mineurs sont confrontés à de nombreuses maladies ou blessures. Hassan Dibo est l'infirmier de ce centre. Il a en charge plus de 8000 personnes vivant sur le site et dans les villages voisins.
les différents types de blessures que je rencontre au niveau de cette formation sanitaire, nous avons les blessures superficielles, les blessures avec lacération, c'est-à-dire les déchirures au niveau de l'organisme, il y a les traumatismes fermés, il y a aussi les fractures ouvertes et fermées au niveau des orpailleurs. Cela est dû maintenant aux chutes dans les puits des orpailleurs. Ça leur crée maintenant des fractures ouvertes, des traumatismes crâniens, des traumatismes du rachis, de n'importe quoi. D'autres se traitent au niveau de cette formation sanitaire, d'autres se réfèrent vers le district sanitaire, les autres se réfèrent directement à l'hôpital national de Niamey.
Et alors, justement, on parlait des orpailleurs. Je reviens du site où il y a les mines. Il y a énormément de poussière et beaucoup d'orpailleurs me disaient que ça leur posait des problèmes respiratoires.
À part les plaies et traumatismes, nous avons les infections respiratoires. Ça va amener maintenant à ces gens-là une pneumonie grave qui peut maintenant les conduire à la mort. Parce que déjà, les poumons vont s'étouffer. Cela va leur amener maintenant des difficultés de respirer. Et maintenant, c'est la mort.
Et ça arrive souvent? C'est fréquent, ça?
Oui, c'est fréquent. Troisième trimestre 2006, nous avons comme infection respiratoire un taux de 19,62%.
Et c'est beaucoup?
Oui, c'est beaucoup. Cela est dit maintenant au nombre des malades qui se sont consultés au niveau de cette formation sanitaire, qui sont pris en charge correctement. Donc 38 blessés qui ont été traités et pris en charge correctement au niveau de cette formation sanitaire.
Qu'est-ce que vous redoutez le plus au niveau des orpailleurs?
À part maintenant les fractures, les problèmes respiratoires, il y a aussi les IST sur les orpailleurs. L'inquiétude maintenant des VIH-Sida. On craint cette maladie.
Et pourquoi est-ce que vous la craignez spécifiquement? Parce qu'ici, c'est une vie très dure. Il y a beaucoup de gens pauvres qui viennent d'un peu partout, pas seulement du Niger, mais qui viennent de toute la sous-région.
Bon, cela est dû à la plupart, cela est dû maintenant au concubinage que font les orpailleurs. D'autres ont leurs femmes, d'autres maintenant, c'est le concubinage qu'ils continuent à faire. C'est des femmes qui ne sont pas mariées, mais qui sont toujours avec eux.
Des prostituées?
Il y a des prostituées, à part, il y a aussi, et c'est des clandestins. Donc la journée, on ne les voit pas chez eux. Parce que déjà la journée, eux, ils sont partis dans les trous. Ils sont revenus la nuit, maintenant, faire leur concubinage.
Et ça, c'est un gros problème pour le sida?
Oui, c'est un problème pour le sida parce que du moment où personne ne sait pas maintenant son statut sérologique, c'est pour eux qu'une peut infecter l'autre ou bien l'autre peut infecter l'autre. Parce qu'aucun ne connaît pas son statut sérologique.
Vous connaissez le taux de séroprévalence ici à Komabongo?
Bon, je vais vous donner maintenant les chiffres exacts du 2002. En août 2002, avec CARE International, on a organisé des enquêtes, des prélèvements de sang sur 278 femmes, des vendeuses, des mineurs, des fillettes, des PS, professionnels de sexe, c'est-à-dire les femmes libres, que les gens comprennent. Mais sur ça, 27 ont répondu séropositif. Ça donne un taux de 0,9%. Imaginez-vous, sur 278, déjà 27 ont répondu positif. C'est beaucoup. Prenez août 2002 à novembre 2006. Ça fait combien maintenant? Personne ne sait. Il faut que les gens se dépistent pour avoir maintenant le nombre réel des cas de séropositivité au niveau de Komabongo.
Priorité santé, Claire Edon.
Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'état de santé des personnes qui travaillent dans les mines d'or de Komabongo au Niger. Igor Strauss, on l'a vu, il n'y a qu'un seul centre de santé. Est-ce que ce centre arrive à fonctionner correctement?
Oui, mais alors avec peu de moyens. Le centre, bon, déjà, est composé de deux bâtiments en béton, situés en plein cœur du village de Komabongo. Alors tout est assez sommaire, mais ça reste propre. Il y a le cabinet de l'infirmier, avec une salle d'attente à l'extérieur. Une salle d'accouchement extrêmement rudimentaire, mais elle permet aux femmes de se reposer dans un endroit calme et frais. Et depuis octobre 2007, les femmes enceintes peuvent être dépistées du VIH-Sida. Alors c'est une grande avancée car avant elle devait se rendre à Terra, la ville la plus proche, qui est quand même à 80 km du site. Le principal problème est un manque flagrant de personnel puisqu'il n'y a qu'un infirmier pour plus de 8000 personnes. Il faut dire qu'il n'y a pas que les orpailleurs qui s'y rendent mais tous les habitants du coin. Et l'infirmier qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est rapidement débordé.
Alors ces chercheurs d'or sont confrontés à de nombreux problèmes de santé comme nous l'a expliqué l'infirmier responsable du centre. Parmi ces maladies, le sida prend une place de plus en plus importante. Alors pour lutter contre la progression de l'épidémie, une campagne de prévention a été lancée par l'ONDPH, l'organisation nigérienne pour le développement à la base du potentiel humain. Adami Seni est chargée de cette campagne et elle est en train d'animer une formation.
Vous êtes ici, Igo, en présence des participantes femmes qui sont là, qu'on est en train de former sur les techniques de communication en matière de VIH-SIDA. La première des choses qu'on les apprend, les modes de transmission, les modes de prévention et les pratiques à risque. Si aujourd'hui, en Afrique et en particulier au Niger, le SIDA est en train de faire un grand pas, c'est grâce à ces pratiques à risque qu'on ignore. Ici, nous sommes avec les professionnels des sexes. Et aujourd'hui, le taux de séroprévalence au Niger, leur taux est plus élevé. Le taux national est de 25%. Et ici, à Koumabongou, nous sommes jusqu'à 27 à 30%. Voilà, c'est inquiétant. C'est pourquoi chaque fois, quand on vient les formations, elles sont prioritaires. C'est avec elles qu'on commence et la jeunesse. Merci.
Alors là, je vois apparemment que j'étais en train de triturer un préservatif dans vos mains. Donc vous apprenez le port du préservatif également?
C'est le plus important chez la professionnelle de sexe, c'est qu'on conseille. Il n'y a plus l'abstinence, il n'y a plus la fidélité, puisque elle, c'est le multipartenariat. Donc ce qu'on leur conseille chaque fois, et on insiste beaucoup, c'est l'utilisation et le port correct du préservatif. Une professionnelle de sexe, donc, elle est exposée à tout. Elle doit savoir comment amener son client à se protéger. Elles ont leur technique d'amadouer l'homme quoi, à le porter. Et c'est ce qu'elles font. Là.
Alors, je vous laisse continuer. Allez-y.
Oui, donc, on est là à la formation. Il y a une père éducatrice. Elle s'appelle Zeynep Moussa, qui va montrer aux participantes comment faire le port correct du préservatif. Elle va le faire, peut-être je vais vous faire l'interprétation, mais elle parle dans la langue quand même.
Borgere gine capote, borgere gine condom, borgere gine zamani fula. Yani gada go borsi. Dini a wondina mbarin se sutun radin fono mbarin se ndaru chire.
La père éducatrice Zeynep est en train d'expliquer les préservatifs. Elle a dit partout où elles vont, il faut qu'elle ait les préservatifs avec elle. Même si c'est dans les soutiens ou dans leur pochette, il faut qu'elle le mette. C'est leur compagnon. C'est un deuxième client, comme on l'a dit. C'est ce qu'elle est en train de dire. Et maintenant, c'est l'ouverture qu'elle a fait. Il faut d'abord regarder sur le préservatif la date de périmination. C'est ce qu'elle a dit dans la langue. Et si c'est périmé, donc c'est pas bon. Et que la PS, elle a les techniques pour attirer les clients à mettre ce préservatif. Il y a certaines même pour mettre les préservatifs, elles mettent ça avec leur bouche. Une façon de tout faire pour que le client accepte de porter le préservatif. C'est ce qu'elle est en train de dire. Elle a ouvert ça, maintenant elle va leur montrer comment mettre ça.
Strauss, merci pour ce reportage dans les mines d'or de Koumabongou au Niger. Un reportage réalisé en partenariat avec l'INPES, l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé. Au revoir à tous et à demain.